paraît qu'il faut un certain temps pour que ça cuise. Vous m'avez compris. Je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On va se lever. Et puis, je n'étais pas là au tout début du culte, mais je ne sais pas si vous l'avez fait ou non. Je vous propose de vivre un petit peu une tradition pascale, non pas évangélique, mais une tradition pascale orthodoxe. Parce que vous savez que nous ne sommes pas les seuls chrétiens dans le monde, et qu'aujourd'hui, ce sont 2 milliards de chrétiens qui, à travers toute la surface du globe, se réjouissent, ou en tout cas devraient se réjouir, parce que le Christ est vivant, il est ressuscité. Et dans la tradition orthodoxe, eh bien, il y a une tradition justement qui est là et qui commence la nuit de Pâques et qui va jusqu'à la veille de l'Ascension. Et à la place des salutations habituelles où on se dit bonjour, ou en Alsace, salut Pissom, eh bien là, on se dit tout simplement, on se tourne vers son voisin et dans toutes les circonstances de la vie, on va lui dire, eh bien, Christ est ressuscité et lui vous répond. En vérité, il est ressuscité. Alors ce matin, on va le faire, on se tourne vers notre voisin, on lui dit « Christ est ressuscité » et vous allez lui dire « En vérité, il est ressuscité ». Alors on ne se fait pas la bise, hein, on... Voilà, je vous invite à prendre place si vous avez salué votre voisin ainsi. En tout cas, les enfants, ils ont bien capté. 1 Corinthiens, au chapitre 15, nous allons lire deux textes de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, à partir du verset 1, l'apôtre Paul nous rappelle ceci à propos de ce grand jour. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi serait inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart, précise l'apôtre Paul, sont encore vivants. Donc vivants au temps où lui écrit son épître aux Corinthiens, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. Et puis nous prendrons un deuxième passage, qui se trouve cette fois-ci dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Donc nous allons prendre Romains au chapitre 8, les versets 31 à 37. Que dirons-nous donc de plus ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui ? Qui accusera ce que Dieu a choisi ? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera ? Jésus-Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée ? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous rappelle l'apôtre Paul, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, dit-il, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et vous avez le droit de dire un grand Amen. À ma gauche, ils sont à fond dedans. C'est l'histoire du petit Luc, le petit Luc qui faisait partie d'une église, un enfant de 9 ans, handicapé physiquement, et de temps en temps, ses camarades se moquaient de lui, tout simplement parce qu'il était différent. Et puis, le dimanche avant Pâques, la monitrice de l'école du dimanche a donné à tous les enfants un œuf et elle leur a demandé de ramener la semaine suivante, pour le dimanche de Pâques, de mettre dans cet œuf des symboles de vie, comme par exemple eh bien, une fleur ou alors un bourgeon. Et donc, tous les enfants se sont pris au jeu et puis voilà que la semaine suivante, pendant le temps d'école du dimanche, la monitrice de l'école du dimanche leur demande, eh bien, montrez-moi un petit peu ce que vous avez mis dans ces œufs. Alors, on a trouvé dedans des bourgeons, on a trouvé des fleurs, il y en a même un qui a mis des cailloux, on ne voit pas trop ce que ça fait là, mais ça ne fait rien, il a mis quelque chose. Et à un moment donné, les enfants se sont tournés vers le petit Luc, et puis ils ont dit la chose suivante, mais regarde, lui, il ne fait jamais comme les autres, lui, il n'a rien du tout dans son œuf. Et le petit Luc, sur le coup, était un petit peu embêté par cette remarque désobligeante de ses camarades. Et puis finalement, il s'est tourné ou il a attrapé la manche de la monitrice de l'école du dimanche. Il lui a dit, c'est moi qui ai raison. S'il n'y a rien dans l'œuf, c'est tout simplement parce que le tombeau est vide. Ce petit garçon n'avait peut-être pas toutes ses facultés. Je ne sais pas où est-ce qu'il en était. En tout cas, un fait est certain. Il avait compris l'essentiel du message de l'Évangile. Et il avait compris que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'était non pas l'œuf qui était vide, mais que c'est le tombeau qui est vide. Et voyez-vous, dans un premier temps, j'aimerais simplement insister là-dessus. Nous avons une affirmation majeure que nous retrouvons tout au long du Nouveau Testament. Et cette affirmation est importante puisque c'est sur elle que toute la foi chrétienne est fondée. Remarquez que l'apôtre Paul va parler bien sûr de la croix, mais dans l'Épître aux Romains que j'ai lu au chapitre 8, il va d'abord dire « oui, Christ est mort », mais ensuite il précise « bien plus, il est ressuscité ». Et cette affirmation, nous la trouvons tout au long du Nouveau Testament, comme si les auteurs du Nouveau Testament, que ce soit les évangélistes d'abord, et ensuite l'apôtre Paul et d'autres ensuite qui sont venus, auraient voulu mettre l'accent ou l'emphase sur cette grande vérité que nous retrouvons à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Je relis simplement quelques versets qui ont été cités tout à l'heure. D'une part, il nous est dit dans 1 Corinthiens 15, « Christ a été mis au tombeau, il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. En réalité, le Christ est bien revenu à la vie, dira l'apôtre Paul au chapitre 15, et au début du livre de l'Apocalypse, Jésus, lorsqu'il se révèle à l'apôtre Jean, dira ceci, il posera sa main sur lui et pour le rassurer, lui le vivant, le ressuscité, il lui dira ceci, voici j'étais mort et je suis vivant pour toujours. Nous avons là un point essentiel de la foi chrétienne. Alors vous savez qu'aujourd'hui, affirmer que Christ est vivant, c'est justement là où souvent les choses vont achopper. Le fait de parler de Christ comme étant un personnage historique, il n'y a aucun souci à ce niveau-là, puisque nous le savons que Jésus a existé, c'est un fait qui fait partie de l'histoire. Le fait de dire qu'il est mort sur une croix, effectivement, là aussi nous avons de nombreuses données, même extra-bibliques, et généralement on ne va pas remettre ceci en cause. Après se posera la question de savoir, mais pourquoi est-il mort? Est-il mort, comme l'affirme l'apôtre Paul, pour nos péchés? Ou alors est-il mort, est-ce une erreur judiciaire ou autre chose? Après il y a la question de la foi qui tout doucement intervient, mais là où la foi intervient réellement, c'est à partir du moment où nous parlons du fait qu'il est vivant, qu'il est revenu à la vie. Et ce n'est pas pour rien que le Nouveau Testament le mentionne à plusieurs reprises, et ce n'est pas pour rien aussi que Jésus a pris le soin de se montrer à tant et tant de personnes. D'abord, comme cela nous a été rappelé justement ce matin, il s'est montré aux femmes. Ensuite, il s'est montré à ses disciples. Remarquez les difficultés que ses disciples ont eues pour croire. Il y a eu Thomas, bien sûr, qui a eu besoin de voir, de pouvoir toucher le Christ. Remarquez aussi que pendant 40 jours, Jésus est venu et s'est montré à ses disciples et s'est montré, selon ce que nous dit l'apôtre Paul, à plus de 550 personnes à la fois. Et il précise qu'au moment où il écrit son épître aux Corinthiens, bien de ces personnes à qui le Christ s'est montré sont encore vivantes. Ça nous montre quoi ? Ça nous montre tout simplement que Dieu sait que nous avons une intelligence, il sait que nous avons besoin d'être rassurés. Il sait aussi parfois, comme saint Thomas, que nous sommes lents à croire, que nous avons besoin de preuves, et il nous donne ces preuves et il nous aide aussi à cheminer. Nous avons là un article de foi majeur. D'ailleurs, le symbole de foi de Nicée-Constantinople, qui est une des grandes professions de foi chrétienne, qui a été écrite au IVe siècle, eh bien, nous rappelle ceci. Cette confession dit la chose suivante. « Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Et il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. » Donc, une affirmation majeure, non seulement dans l'Écriture, mais notez-le aussi, toutes les confessions de foi chrétienne, qu'elles soient d'origine catholique, protestante et évangélique, ont toujours mis un accent là-dessus. Parce que voyez-vous, s'il n'y a pas de résurrection, si la résurrection est niée, alors c'est le fondement même de tout ce qui constitue notre foi qui est mis en péril. Et l'apôtre Paul le dira bien. Il dira, eh bien, dans ce cas-là, nous aurions cru en vain. Et notre foi ne sert pas à grand-chose, mais Christ est vainqueur. Alors sur quoi le Christ a-t-il remporté la victoire? Le Nouveau Testament met en avant plusieurs aspects où le Christ, où la victoire du Christ se manifeste. Comme nous l'avons souligné ce matin, la victoire du Christ se manifeste d'abord sur le péché. Christ est venu pour régler la question du péché. Il est venu pour nous accorder son pardon, et cela ne pouvait être possible uniquement par le fait que le Christ venait, qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite. Ensuite, notez-le aussi, la victoire du Christ est la victoire du Seigneur sur l'ennemi de nos âmes, c'est-à-dire le diable, Satan. Alors parfois aujourd'hui, lorsque nous parlons du diable, de Satan, certains trouvent que nous en parlons trop, d'autres trouvent que nous n'en parlons pas assez. Certains se disent, mais est-il aussi présent que cela? Relisez les textes du Nouveau Testament, en particulier en lien avec la victoire de Jésus, et vous serez peut-être surpris de voir ou de considérer à nouveau combien, eh bien, la victoire de Jésus est d'abord une victoire sur le péché, une victoire ensuite sur la mort, une victoire aussi sur la souffrance, mais surtout une victoire sur l'ennemi de nos âmes, sur celui qui cherchait à nous accuser, à nous maintenir dans la servitude et à faire que nous restions liés. Et le Nouveau Testament met le fait, ou l'accent sur le fait, eh bien, que le Christ a remporté la victoire sur ces différents domaines, à savoir le péché, la mort, la souffrance et le diable. Et du coup, il met aussi l'accent sur le fait, sur un thème que j'ai à cœur, et je vous en ai déjà parlé lorsque j'avais parlé du combat spirituel, à savoir que nous-mêmes, lorsque nous sommes en Christ, eh bien, sa victoire devient notre victoire. Et c'est la pensée du jour que j'aimerais vous laisser. Puisque Christ est venu, puisqu'il est mort et ressuscité, à partir du moment où moi j'adhère à sa personne, ou alors je fais appel à lui, sa victoire va pouvoir se manifester et se réaliser dans ma vie. Et l'apôtre Paul met un accent très très fort là-dessus, notamment dans son épître aux Romains. C'est une victoire que je vais pouvoir expérimenter et vivre dans tous les domaines de ma vie. D'abord, c'est une victoire, dit-il, sur le péché. Nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ, nous cheminons avec le Seigneur, certains depuis plusieurs mois, certains depuis plusieurs années. Mais vous savez qu'un de nos grands combats concerne toute la question de la tentation et toute la question du péché. Et parfois nous nous faisons avoir et parfois nous restons, nous sommes maintenus comme dans une sorte de culpabilité. Eh bien le Seigneur nous rappelle ce dimanche de Pâques, que dans ce domaine précis du péché, face à la tentation, face à nos combats, quels qu'ils soient, il est possible de vivre et de réactualiser la victoire de Jésus dans notre vie. Amen. C'est une victoire aussi sur les puissances des ténèbres. J'aimerais vous raconter une courte anecdote qui m'est arrivée ces 15 derniers jours. Ça fait un certain temps que vous ne m'avez pas vu avec les réunions, j'étais parti. J'ai eu pas mal de demandes ces dernières semaines, là, depuis un mois, toutes les semaines, pratiquement il y a 2, 3, voire parfois 4 demandes de personnes qui me téléphonent, des gens qui ont lu mon livre ou qui ont entendu parler par un tel ou une telle de moi et donc qui font appel parce qu'ils ont des soucis au niveau spirituel, au niveau occulte. Et voilà qu'il y a 15 jours, il y a un couple qui me téléphone de Haguenau et ce couple me dit, écoutez, est-ce que vous pourriez passer à la maison parce que notre fils semble être pris par des puissances des ténèbres, il fait n'importe quoi. Il a complètement disjoncté alors que c'est un jeune homme qui est brillant, mais qui est enfermé dans sa chambre. Et je leur dis, écoutez, je vais venir. Hein. Et je suis donc venu, j'ai pris le temps de discuter avec cette famille. Et puis le jeune homme ne souhaitait pas sur le coup avoir d'entretien. Il était pris dans une sorte de délire mystique, mais derrière sa porte, eh bien, j'ai quand même pris le temps de prier pour lui, de proclamer la victoire du Seigneur et de lier ses puissances qu'il a servissées, même si lui-même n'était pas encore d'accord d'aller à fond là-dedans. Et puis j'ai pris le temps de discuter avec ses parents, et puis finalement, il s'est avéré qu'il y avait pas mal de liens spirituels dans toute la famille. J'ai proposé à la maman de prier pour elle, et puis je n'avais pas forcément prévu de prier pour le papa et de lui imposer les mains, parce que semble-t-il, il n'avait pas trop de soucis. Et puis il me dit, est-ce que vous pouvez aussi prier pour moi, s'il vous plaît, et m'imposer les mains. Je lui dis, écoutez, je vais aussi prier pour vous et vous imposer les mains. Et puis je lui impose les mains, et puis je commence à proclamer la victoire du Seigneur sur les puissances, sur les autorités, sur les dominations, sur les démons. Et alors que je commence à prier ainsi, voilà que notre homme qui était bien calme au début se met à bouger, à être agité, à trembler, ça a duré plus de 10 minutes, et à expulser, à vomir plusieurs démons, comme il le dira lui-même, plusieurs esprits qui sont sortis. Et puis je regarde sa femme et je lui dis, vous l'avez déjà vu comme ça, votre mari? Et elle me dit, ah ben non, je ne l'ai jamais vu comme ça, là. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Et puis finalement, eh bien, le Seigneur l'a délivré de plusieurs esprits. Et il m'a dit par la suite, en venant à la maison, lui-même était très étonné, il s'est dit, mais comment est-ce que j'ai pu attraper cela? On ne sait pas toujours, hein. Mais en tout cas, un fait est certain, il était tellement content. Il m'a dit, ça fait plus de 30 ans qu'il sentait quelque chose en lui qui n'avait rien à faire et qu'il n'arrivait pas à sortir, qui devait sortir mais qui ne sortait pas. Et là, en invoquant le nom du Seigneur, en proclamant sa victoire, le Seigneur Jésus l'a délivré. Ça, c'est possible parce qu'il y a eu ce jour, mes chers. Ça, c'est possible parce que Christ est vivant. Et puis, je suis content parce que l'autre soir, lors de la réunion de prière, nous avons continué de prier pour son fils. Et son fils va beaucoup mieux. Entre-temps, il était d'accord que je le vois, que je prie pour lui aussi. Eh bien, voilà, le Seigneur est à l'œuvre aujourd'hui. Et sa victoire à la croix peut aussi être notre victoire aujourd'hui lorsque nous faisons appel à lui. Comme je le dis souvent, nous n'avons pas besoin de tout comprendre, nous n'avons pas besoin d'avoir tout saisi, nous devons simplement savoir que Christ est vainqueur et que lorsqu'on fait appel à son nom et qu'on adhère à sa personne, eh bien nous aussi nous allons pouvoir vivre la victoire, que ce soit sur le péché, que ce soit dans la souffrance, que ce soit face aux esprits mauvais. Et puis l'apôtre Paul cite d'autres domaines aussi dans Romains 8, il parle de détresse, il parle d'angoisse. Il parle de persécution, de misère, de faim, de danger, d'épée. Comment ne pas voir aussi en ce jour et avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui sont persécutés? Nous avons la chance ou le privilège, enfin est-ce un privilège, est-ce une chance? Parfois on peut se poser des questions, en tout cas de vivre dans un pays où nous ne sommes pas ou très peu persécutés ou embêtés à cause de notre foi. Mais il y a je ne sais combien de dizaines, de centaines de millions d'hommes et de femmes qui en ce jour souffrent. Et l'apôtre Paul leur donne aussi un message. Et nous pouvons aussi avoir une pensée pour eux aujourd'hui, à savoir que dans la détresse, dans l'affliction, dans la misère, il dira, eh bien, il dira, c'est pas quand vous êtes sortis de ces choses-là que vous êtes vainqueurs. Vous me suivez? Il dit à ces personnes, aux Romains, il dit, ce sont dans toutes ces choses que nous sommes plus que vainqueurs. Et littéralement, le mot grec qui est utilisé ici, pourrait être traduit, nous sommes des hyper-conquérants. Dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes des conquérants. Nous sommes peut-être encore dans la souffrance, nous sommes dans la maladie, nous sommes confrontés, ou je suis confronté à une situation difficile, mais puisque Christ est vainqueur, puisque je suis dans son équipe, là-dessus, ou dans ces domaines-là aussi, dit l'apôtre Paul, j'ai la victoire. Elle n'est peut-être pas encore actualisée, je ne la vois pas encore de mes yeux. Mais que ce soit dans ce monde, et que je meurs peut-être ainsi, ou alors que ce soit dans l'autre monde, je suis dans les mains du Seigneur, et quoi qu'il m'arrive, je suis plus que vainqueur. Voyez, vous, moi j'aimerais bien que nous autres chrétiens, nous puissions réaliser cela. Trop souvent nous vivons dans la défaite, trop souvent nous vivons comme si tout était terminé. Il ne s'agit pas de faire du triomphalisme à 2 balles, hein, ou à 2 euros. Il ne s'agit pas de se gausser ou de se gargariser, il s'agit simplement de réaliser qu'il y a eu la croix, oui, mais il y a eu ensuite la résurrection. Et puisqu'il y a eu la résurrection, eh bien nous sommes aujourd'hui dans cette dynamique de la victoire et de la résurrection. Et je termine simplement d'un point de vue pratique, le chemin de la victoire comprend 2 étapes. Et ces 2 étapes se trouvent toutes 2 résumées dans le message de Pâques. Pâques, c'est d'abord le Vendredi Saint, et ensuite, eh bien, c'est le dimanche de Pâques. Et ces 2 événements sont liés. S'il n'y avait pas Vendredi Saint, il n'y aurait pas dimanche. S'il n'y a pas le dimanche, il n'y a pas le Vendredi Saint. Les 2 sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victoire du Christ serait nulle, non avérée, s'il n'y avait pas eu le Vendredi Saint, s'il n'y avait pas eu ce moment dont nous nous sommes souvenus vendredi, où nous nous avons rappelé les souffrances du Seigneur, où nous avons rappelé aussi combien ça a été difficile pour lui de se soumettre à la volonté de Dieu. Et combien, lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémané, combien, lorsqu'il était sur la croix, Dieu l'a réellement abandonné. Il n'a pas simplement cité le psaume 22 pour faire bien et pour dire « voilà, il faut citer maintenant le psaume 22 pour que telle prophétie soit accomplie ». Il a cité le psaume 22 parce qu'à ce moment-là, Dieu l'a réellement, pour la première fois et unique fois de toute son existence, abandonné. Et c'est parce qu'il l'a abandonné, c'est parce que le Christ a vécu le Vendredi Saint que le dimanche a pu aussi se manifester. Et nous avons là aussi pour nous un message. Un message à savoir que la victoire dans notre vie passe par le dimanche de Pâques et par la proclamation de cette victoire, oui. Mais la victoire passe aussi d'abord par le Vendredi Saint, par ce moment où nous reconnaissons notre péché, par ce moment où nous reconnaissons nos torts, par ce moment où nous reconnaissons peut-être que nous avons un sale caractère, où nous reconnaissons qu'il y a des choses dans notre vie qui ne sont pas à la gloire de Dieu et dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Vous me suivez? Où nous reconnaissons une souffrance, où nous reconnaissons quelque chose qui nous empêche de vivre la victoire dans notre vie. Et si nous voulons que la victoire ou la vie puisse jaillir, il faut d'abord qu'il y ait la mort. Alors nous n'avons pas à mourir pour notre péché dans le sens que nous n'avons rien à payer, puisque c'est le Christ qui a payé. Mais d'abord, nous devons reconnaître que nous avons un problème. La victoire dans le Nouveau Testament, ce n'est pas une victoire qu'on proclame comme ça, non, elle est intrinsèquement liée à la mort du Christ. Reconnaître que j'ai un problème dans cette situation, reconnaître que là, je n'arrive pas à m'en sortir, reconnaître que face à cette tentation, eh bien, je suis totalement démuni, que chaque fois je me fais avoir. Reconnaître que j'ai une souffrance dans ma vie qui est immense, que ce soit une souffrance physique, que ce soit une souffrance émotionnelle, une souffrance psychologique, et cette souffrance, eh bien, je l'apporte au Seigneur. Et je dis, voilà, je sais que tu as pris cela aussi à la croix, viens à mon aide. Et à partir du moment où on peut vivre aussi ce Vendredi Saint, et on peut l'apporter au Seigneur, que se passe-t-il? Eh bien, la vie du ressuscité va pouvoir se manifester. Il y a là un principe universel, pour que la vie jaillisse, il faut d'abord qu'il y ait la mort. Pour que la vie du Christ puisse couler dans nos veines aujourd'hui, pour que la vie du Christ puisse nous permettre de vivre la victoire dans différents domaines, il faut d'abord qu'il y ait cette mort qui se manifeste. Et elle s'est manifestée, et c'est pour cela que la vie puisse se manifester. Et dans nos vies, c'est exactement la même chose. Pour que la victoire et la vie puissent couler en nous, il faut d'abord reconnaître, eh bien, que nous ne sommes rien et que nous avons besoin de lui. Chaque fois que je fais cette prière au Seigneur et que je lui dis, écoute, dans tel domaine ou face à tel défi qui est devant moi, je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Eh bien, chaque fois, il y a quelque chose qui va se passer. Chaque fois, le Seigneur vient et la vie peut alors couler et se manifester et Dieu peut faire le miracle au travers de moi. Eh bien, c'est ainsi que ça marche pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Je vous laisse avec ce dernier verset de 1 Corinthiens 15, verset 57. « Loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je vous invite à vous lever et je termine par une prière. Je vous demande juste de faire silence quelques instants pendant notre temps de prière. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier et te dire notre reconnaissance ce matin en ce jour de Pâques. Seigneur, nous sommes réjouis et nous voulons te rendre toute la gloire et tout l'honneur parce que toi seul es digne de cela. Nous te rendons, Seigneur, toute la gloire et tout l'honneur pour ce merveilleux sacrifice et surtout pour cette puissance qui a été déployée par ton Père le jour de Pâques. C'est la première fois, Seigneur, dans toute l'histoire du monde qu'une telle puissance a été déployée pour ressusciter pour l'éternité un homme. Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette grande victoire. Nous te remercions aussi parce que ta victoire est aussi notre victoire. Merci Seigneur parce que tu la partages avec nous. Nous sommes sur terre, nous sommes confrontés Seigneur au péché, à la souffrance, nous sommes confrontés aux esprits mauvais, nous sommes confrontés Seigneur à des situations des fois difficiles, mais nous ne voulons pas simplement regarder à cela. Ce matin nous voulons regarder à toi. Et nous voulons, Seigneur, venir avec ces situations difficiles ou ces souffrances que nous avons, ou ces péchés ou ces choses qui reviennent constamment dans nos vies et qui nous empêchent de vivre avec une tête de vainqueur. Eh bien, nous voulons te les apporter, Seigneur. Nous voulons les laisser mourir là au pied de ta croix, afin que ta vie, Seigneur, puisse se manifester dans nos existences, afin que nous puissions être utiles pour le royaume de Dieu. Seigneur, merci. Merci que ta vie aujourd'hui puisse couler dans les veines des uns et des autres. Que Seigneur, cette vie puisse se manifester, que celui qui a besoin à nouveau de recevoir cette vie, eh bien, puisse la vivre aujourd'hui. Et repartir d'ici heureux et content parce qu'il est plus que vainqueur en toi. Merci Jésus. Amen. Amen.